soyeuse, puis plier, déplier, replier, avec soin, tandis que je maudissais les prolongations raffinées de mon programme 7. Dès le déclic de fin de cycle, j'ai balancé mes chemises humides dans mon sac en plastique et je lui ai proposé de venir prendre un verre dans ma chambre. Elle a souri en remontant sa frange avec son avant-bras. Vous êtes direct? C'est parce que je suis timide. Si je ne me lance pas tout de suite, ça réveille mes problèmes d'ulcère, alors je préfère que vous me disiez non d'emblée. Et si je vous dis oui, ça réveille d'autres problèmes? Je les surmonterai. Je vous préviens, je n'ai que 3 quarts d'heure. Nous avons fait l'amour dans le créneau imparti, et dès le mois suivant, nous emménagions dans un pavillon à la sortie de la ville, avec son fils, mes livres anciens, une Whirlpool à 1300 tours minute et une buanderie pour mon repassage. Quand on refuse de se mentir, on se condamne fatalement à la déception. Notre histoire démarrée en trombe n'a pas tenu les promesses de la première nuit. Après un an de vie commune, j'ai l'impression d'en être toujours au prélavage. Je sens bien que notre amour est un programme longue durée, mais la fonction ne s'enclenche pas. Nous nous ressemblons trop, en fait. Ces 10 ans de souffrance avec son ex-mari pèsent autant sur notre couple que mes déceptions répétées de célibataire par défaut. Nos corps sont compatibles. Nos métiers ingrats se complètent. Nos horizons bornés ne se font pas d'ombre. Son enfant m'accepte. Je suis ravi qu'il soit déjà élevé et qu'elle n'en veuille pas un autre. Mais la famille recomposée sans étiquette que nous formons tourne à vide. Corinne a du caractère et de l'altruisme. Je n'ai que des résignations et de la conscience professionnelle. C'est suffisant pour nous reposer l'un sur l'autre, la nuit et le week-end. Mais ça ne donne pas l'élan de tout casser pour reconstruire, l'envie de tenter un nouveau départ à 35 ans. Nos rêves sont en berne depuis si longtemps qu'ils n'alimentent plus que des rancœurs, et nous évitons de les étaler entre nous, tant nos échecs se ressemblent. Elle avait voulu être médecin sans frontières, moi préfet dans les tom-toms. Elle est infirmière à domicile, je suis contrôleur des impôts à la 2e brigade de Châteauroux. Ce qui allait brusquement réveiller notre couple en ce mois de juin avait tout a priori pour le détruire. J'allais plonger dans l'aventure la plus inconcevable de ma vie, en y entraînant Corinne à son corps défendant. Aujourd'hui encore, j'ignore si j'ai été roulé dans la farine ou touché par la grâce. Et je me demande toujours par quoi je me suis laissé aveugler. La passion? La raison? La mauvaise conscience? L'envie d'un autre destin? Ou la stratégie de mes contribuables? Reste aussi l'hypothèse que mon cœur ait vu juste, et que le plus grand amour que j'ai connu sur Terre remonte au 15e siècle. Chapitre 2. Tout a commencé par une dénonciation. La lettre anonyme s'était retrouvée en haut de la pile, mon collègue Raphaël et moi n'avions rien de prévu pour la matinée, et le siège social du fraudeur présumé se trouvait dans une jolie forêt, à 1/2 heure de l'hôtel des impôts. Raphaël connaissait de nom le château de Grénan. Enfoui dans la vallée de la Brenne, c'est une ancienne forteresse médiévale restaurée par un industriel belge qui s'y est ruiné à la fin du 19e siècle en voulant importer le concept d'agriculture intensive dans les marais du Berry. Commandant tour bombardé par les Anglais en 1944, le château appartient aujourd'hui à une société civile immobilière et les dépendances à une société à responsabilité limitée. Les actionnaires de la SARL sont ceux de la SCI, 2 familles dirigeant une entreprise d'insecticides bio que la lettre anonyme accuse d'être une secte. Argument principal, les suspects, tout en ayant l'air de loubards attardés, roulent en Mercedes classe S et Jaguar X-Type, sans compter une quinzaine de cabriolets de collection.